T'as lancé là?
Alors.
Alors, ben, merci d'être venu au tumulte pour cette rencontre. On va vous présenter Enfin, Franck Thomas va vous présenter ces deux romans qui sont sous le signe de l'humour, beaucoup de pertinence, beaucoup de. Ils sont très malins dans leur manière de présenter les choses. Tout en ayant l'air d'être potache. Voilà, donc Franck, merci d'être venu.
Merci Antoine pour l'invitation.
Donc voilà, tu as écrit deux romans aux Forges de Vulcain. La fin du monde est plus compliquée que prévu, que moi j'avais déjà dans la librairie où je travaillais avant, sous-titré, mais beaucoup plus drôle que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ensuite, L'amour à la page, que j'ai beaucoup aimé, en dehors de la chanson qui m'a été mise dans la tête du coup pendant 3-4 jours. Deux ambiances, enfin, les ambiances sont toutes les deux basées sur l'humour. Deux histoires très différentes. La première, La fin du monde, est pour la fin de semaine. Le deuxième, tu te mets en scène comme plus grand écrivain du monde, incompris malheureusement.
Incompris, oui.
Voilà. Donc, ben, je sais pas lequel tu veux présenter en premier.
Oh ben on peut présenter dans l'ordre
de parution
et de parution. Ah, merci. Alors, La fin du monde est plus compliquée que prévu. Et c'est mon premier roman. Et j'ai mis. Je pense qu'il est foisonnant. Alors peut-être qu'il faudrait que je pitche un peu plus d'avoir l'histoire. C'est l'histoire de Sylvestre, qui est un personnage un peu taciturne. Incompris, qui est persuadé que sa vie ne correspond pas à ce qu'elle mériterait. Et lorsque le dirigeant de Corée du Nord va annoncer qu'il va faire sauter la planète à la fin de la semaine, eh bien pour Sylvestre, c'est un soulagement parce qu'il se dit « Ah, de ces décombres va naître enfin la société où ma place sera reconnue. » Et donc c'est une histoire qui se déroule sur une semaine où on suit la trajectoire de ce personnage qui se prépare à l'apocalypse et où il ne va cesser d'être empêché dans ses préparatifs pour cet avènement qu'il attend de tous ses voeux. Et on suit en parallèle la déliquescence du monde. Et notamment les réactions toutes plus absurdes les unes que les autres des différents dirigeants en France, à l'étranger, autour d'une galerie de personnages assez foutraques. L'ancien amour de Sylvestre qui va revenir pour essayer de sauver les choses avec lui avant la fin. Un certain nombre de il y a une enquête policière, il y a un préfet qui a disparu et donc il y a une gendarmette qui va venir mener l'enquête et qui va rencontrer Sylvestre et bon ça va créer encore des remous et puis voilà il y a encore quelques autres personnages comme ça c'est assez foisonnant ça part parfois dans tous les sens mais ça arrive à bon port, enfin j'espère.
Ah oui, oui. La fin est assez époustouflante, même de grandi, de guignolesque.
Presque. Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est burlesque, grand guignolesque, exactement. Et c'était, je pense, pour moi, une façon d'aller pointer dans la société actuelle, enfin de l'époque, en tout cas, il est sorti en 2018.
Oh, la fin du monde est revenue
dans
l'actualité.
On pourra en parler, mais oui, là, c'est. Je suis content qu'il soit déjà publié parce que je n'oserais même pas publier tellement la réalité est devenue encore plus folle. Voilà, c'était une façon de rire de tout ce qui donnerait envie de pleurer plutôt et de tourner en ridicule toute la misère, les faiblesses de nous, pauvres humains, qui sommes à la fois terribles et en même temps attachants. Voilà, c'est une façon de rire de ce que nous sommes, aussi imparfaits que nous soyons. Voilà.
Merci.
Et le deuxième, alors L'amour à la page, Il est sorti en janvier 2020. Et alors c'est en effet, comme tu l'as dit, une autre histoire. C'est le même ton assez burlesque, c'est en gros les curseurs de l'absurde sont poussés assez loin. Et l'histoire, donc, c'est Franck Thomas, cet auteur, alors le personnage Franck Thomas dans l'histoire qui parle à la première personne, qui se voit refuser le manuscrit de son deuxième roman par son éditeur et qui va donc batailler pour arriver à faire publier cette œuvre malgré tout. Et donc c'est une trajectoire non plus à l'échelle de la planète qui devient folle, mais dans les méandres du milieu de l'édition. Où les personnages sont aussi assez.
Alors, il veut faire éditer son deuxième roman quand même, qui s'appelle...
Qui s'appelle Père Goriot Exorciste.
Voilà.
Voilà. Et
Bah
qui est
écoute.
bien sûr le chef-d'œuvre que le
Absolument.
monde attend. Mais voilà, et cet éditeur qui lui refuse, évidemment, est incompétent et ne comprend pas la richesse de ce qui lui passe sous le nez. Voilà, et donc en parallèle, il va devoir quand même, comme il misait sur les revenus forcément faramineux de cette œuvre, et sur lesquels il ne peut pas compter, eh bien il va devoir travailler, il va être amené à faire le ghostwriter, ce qu'on appelait avant nègre, pour une illustratrice jeunesse. Et quand on me demande de présenter le livre, moi j'aime bien dire que c'est une comédie romantique sur fond de milieu éditorial. Ou bien c'est une critique du monde éditorial sur fond de comédie romantique. Voilà. Ça reprend les codes de la comédie romantique. J'avais envie d'écrire un roman qui adopte des codes assez clairs, assez définis. Alors pas ceux du polar ou du fantastique, mais la comédie romantique. J'ai un certain attachement pour les comédies romantiques. Je trouve que c'est un genre qui est sous-estimé, quand elles sont bien écrites, moi j'aime bien me laisser emporter. Voilà, j'avais envie de ça, quoi.
Et puis, dans les deux romans, toi, l'auteur, tu nous interpelles, nous,
Ah,
lecteurs,
c'est vrai, oui.
ce qui est assez étonnant et souvent très drôle. Alors, j'ai notamment le souvenir là où tu nous expliques, d'ailleurs, pardon, je me souviens plus, si, il me semble que c'est dans celui-ci, où tu nous expliques que tu sais, oui, la situation là est presque irréaliste, mais tu fais ce que tu veux, c'est ton livre.
C'est vrai.
Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, des fois, on est interpellé en tant que lecteur en train de lire le livre. Et du coup, on ne sait plus quel Franck Thomas nous parle. Est-ce que c'est celui qui a écrit le chef-d'œuvre Père Goriot Exorciste? Est-ce que c'est toi? Est-ce que... Enfin, voilà, c'est vraiment deux très bons romans, très drôles. Alors, évidemment, celui-ci, en tant que libraire en plus, qui connaît un tout petit peu le monde de l'édition, c'est vraiment la scène du salon du livre à Paris
Ah oui.
est hilarante, où quasiment tous les livres sont écrits par des algorithmes et où les auteurs viennent signer en robe de bure comme une pénitence. Enfin, c'est vraiment
Merci.
très très drôle. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé les deux. Voilà. Est-ce que l'éditeur veut dire quelque chose?
Alors, merci beaucoup de l'accueil dans la librairie Le Tumulte. Sur le deuxième roman, on avait eu, puisque tu parlais du Salon du Livre de Paris. Donc, il va peut-être reprendre cette année. On avait eu une surprise, c'est qu'en fait, donc en 2020, quand ton roman est sorti, quand L'amour à la page est sorti, le Salon du Livre de Paris a été annulé. Mais on a eu le temps de voir l'affiche qu'ils avaient faite.
Ah oui.
Et la blague, c'est que la personne qui avait fait l'affiche avait fait une affiche qui ressemblait à la couverture du livre, avec un peu la même gamme couleur, le même type d'objet qui se baladait. Et c'était très drôle parce qu'effectivement, un des morceaux de bravoure de L'amour à la page, c'est toute la partie au Salon du Livre de Paris. Il y en a deux en fait, plutôt vers le début et vers la fin. Et la première partie qui se passe au Salon du Livre est assez longue parce que c'est plusieurs scènes cocasses qui est un moyen. Parce que le Salon du Livre de Paris, c'est un endroit où on retrouve toute l'édition sur un petit périmètre pendant quelques jours, avec toutes ces ridicules. C'est délicat parce que l'édition, c'est quelque chose qui n'est pas très très bien représenté dans la fiction, que ce soit au cinéma ou même l'écriture, c'est pas toujours très bien représenté dans la fiction. Et j'ai trouvé que Ce roman, au-delà du fait d'être une farce extrêmement drôle, extrêmement enlevée, une comédie romantique touchante, une belle odyssée personnelle du héros qui apprend l'humilité et
C'est vrai.
le respect, et voilà. C'est aussi un bon roman documentaire sur l'édition, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses que tu avais remarquées à l'époque, des tendances qui se sont amplifiées depuis. Donc, c'est un roman qui a beaucoup d'aspects variés. Et puis, il y a aussi un autre petit élément. C'est que souvent les jeunes romanciers vont avoir tendance à. Il y a toujours dans les premiers romans un roman qui est un peu plus autobiographique que les autres. Parce que c'est toujours important d'accepter en fait l'identité qu'on a reçue pour essayer de se la réapproprier. Donc il y a toujours un moment où on va écrire un peu plus sur soi. Et d'une certaine façon, alors c'est de l'ordre de la. Ça va être une question. C'est mon impression, et tu me diras si tu la partages, que l'amour à la page a quelque chose de peut-être un tout petit peu plus autobiographique que La fin du monde est plus compliquée que prévu. Sauf que maintenant, La fin du monde devient un roman autobiographique, voilà, qui n'était pas initialement, mais bon, ça c'est autre chose.
Une prophétie.
Mais donc, est-ce que l'amour à la page, c'est ton moment autobiographique?
Alors en apparence, oui. Je pense que ça part d'une réalité très... de quelque chose d'assez vrai. C'est-à-dire que j'aurais aimé que le premier roman que j'ai écrit soit un best-seller. J'aurais aimé que le deuxième transforme l'essai. Et je pense que c'est une manière de... Comme dans le premier, je me moque... un peu de tout le monde, tous azimuts, y compris moi-même, bien sûr. Le personnage de Sylvestre tient beaucoup de moi, d'une certaine manière. Et dans l'autre, c'est une façon plus spécifique d'aller attaquer cette ambition démesurée, cet ego qui ne cesse de revenir en permanence. Donc cette part-là est assez autobiographique, c'est une sorte de catharsis, quoi. Mais pour le reste, l'action, non, je pense pas quand
Non,
même.
mais moi, je te. En fait, je te reconnais pas dans le roman, au sens où je sais bien que c'est pas ta vie. Tout ça, je sais que c'est effectivement pas ta vie. Mais en fait, parfois, te lisant dans ce moment-là, ce que je me disais, c'est, ah, en fait, je vois bien comment lui, quand il a découvert le monde de l'édition, ça l'a interpellé. Parce qu'en fait, ça a un petit côté les voyages d'Arlequin. Arlequin, dans les romans d'Arlequin, initialement, le personnage enfin, du théâtre, Arlequin, il voyage partout et à chaque fois, il donne son regard extérieur à un lieu. C'est-à-dire, il voyage dans un nouveau pays, il est toujours étonné. Et d'une certaine façon, toi, tu étais le voyageur en édition et c'est souvent le voyageur qui donne la vérité, en fait. Parce que, y a plein de choses dans l'édition auxquelles on pense plus, qui sont des choses très bizarres, mais qui sont devenues nos habitudes. Et c'est la personne venue du monde extérieur qui nous fait remarquer enfin, qu'on marche un peu sur la tête par moment.
Alors, de ce point de vue-là, peut-être oui que tu as raison que dans ce deuxième roman, j'ai pu y mettre un certain nombre de scènes inspirées de ce que j'avais pu vivre à la publication, avant, à la publication, après du premier. Oui. C'est évidemment largement romancé, exacerbé, déformé pour créer le rire ou pour raconter une histoire un peu plus cocasse. Mais oui, c'est vrai. Oui, je pense que de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne saurais même plus dire ce qui est inspiré de la réalité et ce qui a été de l'ordre de la fiction. C'était un peu des tremplins à chaque fois. Il s'agissait de dire, ah tiens, il y avait cette histoire-là, et puis hop, et on va sauter encore plus loin et voir jusqu'où on peut sauter pour s'amuser encore un peu plus avec ce substrat de départ.
Et ça veut dire que ton grand roman autobiographique, il est encore devant toi.
Oui. À quelle
En fait,
distance,
tu
je ne
n'avais pas
sais
prévu d'en décrire un, voilà. Donc.
Oui, non.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, il y a un auteur américain des Forges, Charles Yeo, qui a écrit, qui est comme toi, scénariste, et qui a écrit plusieurs romans, non, un roman et beaucoup de nouvelles sur toutes sortes de sujets. Et un jour, il a été rattrapé par le fait que c'est un Américain d'origine asiatique et que plusieurs membres de la communauté asiatique américaine l'interpellaient en lui disant c'est un sujet important sur lequel il faut parler. Donc son identité l'a rattrapé. Ou Alexandra Kochely, qui est une autrice des Forges, qui est française, d'origine ukrainienne, a été rattrapée par ce sujet-là qu'elle finit par aborder. Donc c'était ça que je veux dire, c'est que peut-être que toi, ton identité, c'est d'être écrivain ou scénariste, et que c'est une identité qu'on choisit généralement d'être écrivain ou scénariste.
Non, mais alors je crois que je comprends mieux ta question. En réalité, ces deux premiers romans, c'est des romans qu'on peut dire satiriques. Il y a vraiment un ton ironique, assumé, potache, tu l'as dit. Et c'est aussi une manière de se cacher, de pas vraiment parler de soi, ou d'en parler de façon très détournée. Celui que je suis en train d'écrire actuellement, il est pas du tout ironique, il est d'une certaine manière plus sincère parce que il a pas peur de l'émotion. Là, on est beaucoup dans le rire. J'ai essayé de mettre de l'émotion aussi, et bon, je pense qu'il est un peu, elle est un peu cachée par le rire. Là, il y aura vraiment plus quelque chose de très sincère et d'un. Ouais, plus, de ce point de vue-là, plus fragile, plus périlleux. Et oui, je pense que tu as raison. C'est-à-dire je suis sur un chemin où, avant que j'accepte de parler de moi vraiment, il y a une trajectoire à parcourir, de partir de l'ironie, aller vers la sincérité, et peut-être, je ne sais pas quand, un jour, accepter que. J'aurais quelque chose d'intéressant à dire sur moi-même qui pourrait intéresser les autres, mais c'est pas encore le cas, je pense.
Ah, cela dit, on voit déjà qu'entre le premier et le deuxième roman, il y a une évolution, mais tu l'as dit, on passe d'une farce à quelque chose qui alterne la farce et la comédie romantique, mais avec des accents de sincérité aussi. Dans la comédie romantique, il y a aussi. Enfin, je sais pas, tu parlais des. Tu aimes bien les comédies romantiques. Moi aussi, c'est un genre que j'aime bien. Et en fait, la comédie romantique, il y a toujours un moment de très forte sincérité, de très forte chaleur. Je ne sais pas si tu vois c'est ce roman britannique c'est Nick Hornby qui a fait Fever Pitch, qui a été adapté au cinéma sur une comédie romantique autour du football dans les années
Ah
90.
non,
Ça te dit rien
non,
du
je
tout,
connais
hein.
pas, non.
Bon, voilà. Et en
Mais
fait, il y a
c'était
des
pour
vrais
le
moments de
coup.
sincérité. Non, mais bon, personne. Voilà, ok. Voilà, ok. C'était mon moment comique. Non, et en fait, ce que tu décris comme un mouvement vers la sincérité, moi, en lisant ton deuxième roman, je l'ai senti, en fait. Je trouve que c'est un. Le premier est très impressionnant par la construction, le grand nombre de personnages, les sujets abordés. J'aime bien aussi le côté. Ça se passe dans un petit village, une ville qu'on devine être en Bretagne, c'est ça? Mais c'est bien en Bretagne,
C'est
oui,
en
c'est
Bretagne.
ça. Et en fait. Tout le monde va basculer plus ou moins dans une sorte de folie joyeuse face à l'arrivée de la fin du monde. Donc c'est une sorte de roman somme. Le deuxième roman est plus clair, en fait. Il y a une galerie de personnages, mais on est très centré sur l'odyssée personnelle du héros. Et c'est deux comédies de genre assez différents, en fait. Hein.
C'est vrai, le ton est similaire, le type d'humour est similaire, mais le ton, le genre est différent, oui, c'est vrai. Et.
Et alors pourquoi commencer par une grande comédie somme comme La fin du monde est plus compliquée que prévu?
Bah, je pense que c'est comme beaucoup d'auteurs qui créent un premier roman, on a envie de tout mettre. En fait. Ouais, je me suis laissé emporter un peu par chaque idée qui venait et que j'ai voulu intégrer. J'avais envie de faire un roman plus court aussi, ensuite. Ça, je crois que c'est à peu près le double. Il fait 400 pages et celui-ci, il en fait 200. J'avais envie de quelque chose un peu plus resserré, plus direct, plus facile à lire, je pense, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a moins de personnages, que la trajectoire est plus simple. Voilà, aussi plus rapide à écrire, je pense, parce que donc on s'est rencontrés avant que je l'écrive, mais ça a mis plusieurs années avant que je le termine, avant qu'il soit publié, tout ça. J'avais besoin de quelque chose qui soit plus rapide, Et là, sans doute que le suivant, il sera encore plus court, ou à peu près pareil, mais il sera pas plus facile à lire. Il sera plus travaillé.
Enfin, tu as évoqué, désolé, comme on est entre nous, on va partir dans des choses très personnelles. Tu as évoqué qu'on s'est rencontrés puis des années après, tu as été publié. En fait, c'est vrai que ton manuscrit n'est pas arrivé par la poste. C'est qu'on s'est rencontrés et je me suis dit que c'est quelqu'un avec qui il faudrait que je travaille un jour ou l'autre. Donc j'ai attendu longtemps d'avoir un texte. Et voilà. En fait, je n'ai jamais eu ta version de notre rencontre, en fait. On en a reparlé il n'y a pas très très longtemps.
Ah, c'est très intime là, vous êtes
Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ma version de notre rencontre?
Mais non, mais parce que, en fait, alors je te donne ma version.
Ouais.
C'est qu'en fait, y a,
Attention, c'est enregistré
un
là.
prix, y a un prix littéraire qui est remis à une personne. Il y a une photo de ce prix qui est prise. Il y a quelqu'un qui me félicite pour avoir reçu un prix
Ah
littéraire.
oui, c'est vrai.
Et je dis, moi, je n'écris pas, donc ça va être difficile de recevoir un prix littéraire, ou sinon peut-être qu'il faut que je me mette à écrire. Voilà. Et à ce moment-là, on m'envoie la photo en disant, si, si, c'est toi. Et en fait, la photo était tellement mal prise qu'en fait, la personne avait cru que c'était moi sur la photo, alors qu'en fait, c'était Franck Thomas.
Ah oui, voilà.
Voilà.
C'était une époque où on pouvait penser
Qu'on se
qu'on se
ressemblait.
ressemblait, à vous
Voilà.
de juger. Mais j'avais les cheveux plus longs, t'avais un peu moins de barbe, j'en avais un petit
Ouais.
peu plus. On n'avait
J'avais des
pas les mêmes
lunettes rondes.
lunettes.
Non, j'avais des lunettes plus rondes dans le passé.
Moi,
C'est
j'avais
pas.
des lunettes moins rondes, donc peut-être, voilà, il y avait quelque chose.
Bah.
La photo était un peu sombre. Bon, et voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, ah, bah, tu ressembles à David Meulemans. Alors, je me suis dit, mais qui est ce David Meulemans qui me ressemble ou à qui je ressemble? Je suis allé voir et j'ai vu qu'il était éditeur. Je me suis dit, ah, bah, est-ce que c'est un prétexte suffisant pour aller contacter cette personne? Oui. Allez, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le roman n'était pas encore écrit. Et on s'est bien entendu. Et puis ça a été. Je pense que te rencontrer aussi m'a motivé pour avancer dans l'écriture. Voilà, tout ça grâce à une photo.
Mais tu avais
Une
déjà
mauvaise
commencé
photo.
à écrire?
J'avais déjà le ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire une trentaine de pages qui résume l'histoire. J'ai toujours fonctionné comme ça. Il y a des écrivains, des auteurs ou des autrices qui écrivent comme ça au fil de la plume. Moi, j'ai jamais pu concevoir une histoire de cette manière. Il faut toujours que je l'établisse au préalable. Et après, évidemment, l'écriture, elle bouge beaucoup. Il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Mais donc, j'avais ce document-là. Le roman n'était pas encore écrit. Mais donc, le projet était assez suffisamment avancé. Je t'en ai parlé d'ailleurs, hein, il me semble.
Oui.
On a discuté. Tu m'as dit, ah, ça peut m'intéresser. Voilà. Du coup, ça m'a porté aussi. Et voilà, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, on est là, tous les deux. Et on va continuer à travailler ensemble.
Ben j'espère bien, hein, voilà. Mais ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'aussi tu t'as une forme, enfin, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était que ton métier était intéressant. Et ta formation initiale était atypique pour un écrivain. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier et quelle était ta formation initiale et en quoi ça a influencé ton écriture?
Alors, je suis pas sûr de savoir exactement à quoi tu fais référence.
Non, 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 mais en fait, tu es scénariste
Ah oui, oui.
et tu avais fait les Beaux-Arts.
Ah oui, voilà, c'est ça, oui.
Voilà. Ça, normalement, tu devrais t'en souvenir quand même.
Oui,
Parce que
non mais
là.
parce, enfin c'est vrai, mais parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une formation, comme j'ai fait des tas de choses un peu avant, un peu après. Je savais pas exactement ce que tu désignais, donc
Il y
voilà.
a des trucs que je connais pas et que tu vas nous révéler ce soir, c'est ça?
Un peu plus tard, quand on aura un verre de vin
D'accord. T'as une formation de
à
contrôleur de
craquer.
gestion
Voilà,
initialement, voilà.
tout à fait. Je suis aussi pilote de ligne,
Voilà.
mais
Et
non.
mythomane.
Professionnel.
Voilà, c'est ça. Agréé, voilà.
Agréé. Eh bien oui, ben c'est vrai, les Beaux-Arts, mais ça t'avait intéressé,
Oui.
ça t'avait interpellé?
Ça m'avait interpellé parce qu'on avait publié, d'une part, je trouvais ça très intéressant, parce que moi j'avais suivi, quand j'étais au collège et au lycée, la formation des cours du soir des arts déco. Et un jour, ils nous avaient dit, pour vous motiver pour vos études, on va faire rencontrer certains de nos élèves qui sont allés aux Beaux-Arts. Et en fait, pendant 2 heures, il y a trois étudiants des Beaux-Arts qui sont venus nous parler de ce qu'ils faisaient dans leur vie. Et à la fin, plus personne ne voulait faire les beaux-arts. Parce qu'ils nous ont tous expliqué qu'ils étaient devenus pauvres et que c'était une vie de souffrance et d'abnégation. Et voilà, mais donc j'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui avaient fait les beaux-arts. Voilà.
D'accord, je comprends.
Et l'autre chose aussi, alors attends, les beaux-arts, ça m'avait intéressé. Non, et aussi, on avait publié un auteur, Jean-Charles Hue, qui avait été qui venait des mêmes beaux-arts que toi. Donc
Tout à fait, qui est cinéaste.
oui, qui est cinéaste. Et je trouvais que c'était intéressant parce que je me rendais compte que beaucoup des étudiants des beaux-arts de Cergy avaient fait autre chose que de l'art contemporain, en fait. Étaient allés vers le cinéma ou vers l'écriture.
Alors, il y a en effet, il y en a quelques-uns qui deviennent plasticiens, mais de toutes les manières, il y a peu d'étudiants des beaux-arts qui deviennent plasticiens, parce que les places sont chères et que. Puis je pense que tout le monde n'a pas vocation à devenir artiste plasticien. Moi, en tout cas, ce n'était pas ma vocation, c'était sûr. Et il y a quelques cinéastes, en effet. Il y a. Alors, c'est Michel ou c'est son frère? Azanavicius, celui qui a fait les OSS. Il était aux Beaux-Arts de Cergy. Voilà, donc il y a Jean-Charles Hue que tu as cité. Il y en a quelques autres que je ne vais pas retrouver maintenant. Mais oui, il y a aussi. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette autrice aussi Bon, je ne vais pas retrouver non plus, mais comme tu dis, en fait, on peut parler de Beaux-Arts si vous voulez. Les Beaux-Arts, moi je trouve que c'est une excellente formation parce que ça forme absolument à rien, mais ça forme l'esprit critique. Et en fait, ça oblige à se débrouiller, à avoir un regard critique sur le monde de manière générale et à se débrouiller pour faire quelque chose de sa vie après. Ça, on n'apprend pas un métier où ni on n'est pas mis dans un réseau, enfin, sauf ceux qui deviennent plasticiens, ils intègrent le réseau évidemment, mais sinon, bah, il faut se relever les manches et puis construire soi-même son métier, son réseau, ce qu'on veut faire, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une très très bonne formation. Ouais. Ça te rend débrouillard. Ça t'oblige à affiner exactement ce que tu veux, comment tu le veux. Ça t'a permis d'aller défricher des tas de choses sous des tas de formes. Et puis, ouais, tu deviens débrouillard. Enfin, je pense. Quand on a envie. Il y en a qui deviennent dépressifs, mais.
Mais en fait, ils n'étaient pas dépressifs. C'était juste que c'était un peu difficile quand tu es en première ou terminale qu'on dit votre rêve vous condamnera à une vie quasiment monacale, en fait.
Bah, où vous allez
Monastique même.
pas gagner suffisamment d'argent pour vivre, ouais, c'est très difficile. Mais en même temps, auteur, c'est pareil.
Ce que j'allais te dire, est-ce qu'auteur, ça va?
Non, mais du coup, j'étais bien
Mais
préparé à devenir auteur.
auteur, on est prévenu. Voilà, c'était ça. Hein,
Ouais, c'est-à-dire, bon, j'avais déjà fait le job avant, je savais
Oui, c'est
que.
ça.
Voilà. Mais.
Et les beaux-arts ont quand même mené à l'écriture.
Exactement. Et
Parce que
alors.
même en tant que scénariste, alors.
Oui, alors mon éditeur me présente toujours comme scénariste, mais je ne suis pas non plus un grand scénariste. J'écris un petit peu, j'écris un peu pour la télévision, mais c'est. De toute manière, les beaux-arts, ça forme à tout. Enfin, si on prenait l'historique de tous les étudiants qui ont fait les beaux-arts ces 20 dernières années, je pense qu'on retrouverait tous les corps de métier, mais vraiment absolument tous, quoi. Et moi, depuis le début, depuis que je suis tout petit, quand même, c'est l'écriture qui m'intéresse. En fait, raconter des histoires. Donc, les beaux-arts, c'était une manière d'essayer de voir comment on pouvait raconter des histoires avec l'écriture, mais aussi avec des images en mouvement, le cinéma, la vidéo, avec des objets, avec des situations, des mises en scène. Voilà. Donc, je me suis entraîné à ça. Et puis, j'ai. Scénariste, j'ai. Mon métier, c'est à la fois scénariste et en même temps consultant en scénario. C'est beaucoup ça, surtout. Donc, c'est là que le regard critique dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, j'ai pu le déployer vraiment dans l'analyse des écrits des autres. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais plus exactement où est-ce que je
Mais
voulais
je
en
pense à
venir.
quelque chose.
Oui.
En fait, ça t'a jamais tenté d'être éditeur? Je précise qu'on n'a pas du tout préparé les questions, hein, mais c'est
Non, c'est
vraiment.
vrai.
Non, parce que aimer analyser les écrits des autres, c'est une partie du travail d'éditeur, en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, bah, pour
Vous t'avez
l'instant.
édité des revues quand tu étais aux Beaux-Arts.
Oui, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire effectivement tout à l'heure. En fait, les Beaux-Arts, à l'époque où j'y étais, C'était très ouvert, on disait que c'était ouvert sur la danse, le théâtre et tout ça. Et l'écriture, bah, étonnamment, c'était pas tout à fait reconnu en tant que tel. C'est, s'il y avait des mises en forme de textes dans l'espace, alors qu'ils étaient placardés sur le mur, ça, d'accord, c'était des formes visuelles, mais l'écriture en tant que telle est reconnue comme acceptable dans le champ des beaux-arts. Bah non, c'était vraiment la littérature, ça va dans le champ de la littérature, et puis il y a les beaux-arts à côté, c'est les arts visuels, et voilà. Et donc on a un petit peu, avec quelques étudiants, on a un petit peu voulu casser ces barrières, et donc on a créé une revue littéraire au sein des Beaux-Arts. Et ça a duré 2 ans, enfin ça s'est arrêté quand nous sommes sortis de l'école. Mais oui, c'est une bonne question, Titeur, pourquoi pas? Là, je le fais dans le domaine de l'audiovisuel, ce qui me permet de gagner ma vie. Je ne sais pas
Là,
si en tant
tu deviens un peu
qu'éditeur.
désobligeant là.
Non, mais disons que comme je ne gagne pas ma vie comme auteur, ça me permet
Oui.
d'avoir. Et puis j'aime bien, en fait, j'aime bien avoir un pied dans chaque domaine. J'aime beaucoup la littérature, mais j'aime beaucoup aussi le cinéma, l'audiovisuel, cette façon de raconter les histoires d'une manière différente aussi, où il y a une part d'écriture, mais pas que. Voilà, j'aime bien. Pouvoir tout embrasser en fait.
Bien.
Puis j'aime beaucoup aussi rencontrer les gens. Voilà. Donc l'écriture, c'est un truc très solitaire. On est chez soi, assis devant son ordinateur. Et c'est merci beaucoup, Antoine, de nous inviter
Avec plaisir.
et d'être là.
Et
Voilà.
aussi, c'est très particulier, c'est qu'on est habituellement, on a quand même régulièrement des rencontres en librairie, des salons. Et là, on sort presque de 2 ans sans librairie, sans salon. Malheureusement, je pense que L'amour à la page, t'as pas dû avoir beaucoup d'événements. Des
Non,
quelques salons,
non, il est
peut-être.
sorti 2 mois avant le premier confinement et la
Ouais.
fermeture des librairies, donc
Ouais.
ça, ouais.
Mais t'as eu des salons quand même.
Non?
Non?
Ben non.
Mensuel, c'était. Ah, c'était
Ah,
2000.
mensuel c'était avant,
C'était
donc
2019, d'accord.
bon, le dernier, le ouais,
Non, mais c'est vrai qu'en
le
fait, en
premier et
deux
dernier
ans.
salon c'était en novembre,
Ouais.
sans livre, mais bon,
On a
ça
eu
c'est pas
presque,
très très grave.
ouais, on a eu presque 2 ans sans événement en fait. Et donc on reprend au tumulte.
Au
Alors
tumulte.
on se tourne vers toi, Antoine. Toi tu n'as pas fait les beaux-arts.
Non.
D'accord.
Non.
Tu as fait l'école de la librairie ou non?
Non. Oui, si, 3 mois
D'accord.
dans le cadre d'une entreprise. Non, j'ai pas fait d'études comme ça. Moi, ça va plus vite. J'arrête à la fin de ma première.
D'accord.
Ma maman voulait absolument que je passe mon bac français. Pourquoi ça, j'ai
Ah
c'est
mais elle
resté un
savait que tu avais la
mystère.
fibre littéraire, c'est pour
Ben non, je
ça.
me suis planté en plus.
Ah bon? Non, mais il y a des grands romans qui ne sont pas reconnus tout de suite. Il y a
Oui, c'est
des, y a des grands élèves de première en bac français qui ne sont pas
ça.
reconnus tout de suite, comme
Bah
des
voilà.
grands élèves d'oral de français, quoi.
Ça doit être ça.
Voilà. Et donc maintenant, tu es au tumulte.
Voilà.
Et ça vient d'où le nom, le tumulte?
Ça vient de l'histoire tumultueuse de la librairie et ça vient de Alain, les propos sur le bonheur.
Oui.
Alors je sais plus dans le titre du chapitre, mais à un moment il dit, et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles.
D'accord.
Voilà. Ça m'a semblé sympa comme programme de faire les pensées belles. Est-ce que vous avez des questions, des envies, des...
J'ai
Ou
eu
est-ce qu'on boit un
la
verre?
réponse à ma question, parce que je me disais, ça fait 4 ans, 2 ans, donc il y en a un maintenant qui sort. C'est ce
Alors,
que j'ai cru comprendre, qui est un peu
il y en a un
plus.
en cours
Ouais.
qui est un petit peu plus long à écrire.
Voilà, c'est
Donc,
ça.
j'ai promis à mon éditeur un premier jet pour le mois d'octobre. Si on s'y tient, ça veut dire que ça sortira quoi, mai 2023, mars.
Avec un peu de chance.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Premier semestre 2023.
Premier semestre. Si
Comme
tout va
ça,
bien.
c'est pas contraignant.
Ouais.
Premier semestre 2023.
Mais il est vraiment beaucoup plus difficile. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus difficile de l'écrire. Bah, en fait, ce ton-là, satirique, d'une certaine manière, il sort assez naturellement. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, puis ça m'amuse, alors du coup, voilà.
Il vous convient, quoi. Ouais.
Et oui, et là c'est vraiment un tout autre ton. L'histoire est un tout petit peu plus complexe aussi. Et il y a un peu plus de recherche esthétique au niveau de la langue. Alors c'est un petit peu mystérieux comme ça d'en parler sans vraiment en parler, mais voilà, il a il a besoin de prendre un petit peu plus de temps pour naître celui-ci.
Ouais, les forges de Vulcain ont une particularité qu'elles partagent avec certaines maisons, mais pas avec toutes les maisons. C'est qu'on est ce qu'on appelle une maison d'auteur ou d'autrice. Ça veut dire que quand une personne rentre dans le catalogue ou dans le programme avec un titre, c'est avec cette idée que l'auteur vient pour toute son œuvre. Alors, il n'est pas captif, c'est-à-dire, s'il veut repartir, il peut tout à fait repartir, mais il y a une sorte d'engagement moral de dire, on va t'accompagner dans la construction d'une œuvre, livre après livre. Et donc avec cette idée que si l'auteur change de ton, de style, il sera toujours le bienvenu. Et voilà. Mais ça veut aussi dire qu'il faut éviter qu'un auteur fasse deux fois le même livre, parce que je crois que c'était c'est chez Chateaubriand où il y a un passage où il dit que c'est la plus grande des grossièretés de servir deux fois les mêmes plats à quelqu'un. Il faut toujours noter les plats qu'on a servis à quelqu'un de manière à ce que quand quelqu'un vient chez soi, il ne mange jamais deux fois la même chose. Là, l'idée, c'est que à chaque livre, c'est bien que les auteurs franchissent une sorte de seuil, qui est un seuil souvent esthétique, un élément de conquête intellectuelle, mais pas qu'ils aient à se dire je dois conquérir plein de choses d'un seul coup, mais plutôt de se dire je vais construire une œuvre où il y aura plusieurs livres, et à chaque nouveau livre, j'essaye de conquérir quelque chose de nouveau. Alors après, je t'ai jamais fait ce discours à toi. Donc toi, est-ce que toi, tu t'es déjà d'une certaine façon un homme de l'écrit avant de commencer à publier. Donc j'ai jamais eu à te faire ce type de discours. Mais par exemple, pour moi, je vois comment à chaque roman, entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, tu franchis des seuils esthétiques. Et est-ce que ça te parle, ce que je te dis ou...
Oui, mais est-ce qu'il y a une question vraiment dans...
Non, il n'y a pas vraiment de question. C'était,
okay, parce que du coup... Ouais, okay.
Je précise que la semaine dernière, on a fait une conférence, une rencontre comme ça, avec un auteur américain, mais qui était en visioconférence. Et c'est un auteur qu'on a eu beaucoup de mal à avoir pendant 45 minutes. Et une enseignante qui était là, une universitaire, qui a posé une question de 3 minutes. Et à la fin, elle a dit « c'était juste mes pensées ». Et je me suis dit, ah là là, elle nous a fait perdre 3 minutes, et maintenant je me rends compte que je viens de nous faire perdre 5 minutes complètes.
Mais non.
C'est pour ça qu'il faut aimer les autres, parce qu'on se rend compte qu'on est pire qu'eux. Voilà.
Alors je vais quand même essayer de répondre à ta question, qui n'en est pas une.
Voilà.
Très bonne question d'ailleurs.
Très bonne non-question.
Très bonne non-question. En effet, j'ai l'impression de... d'une progression. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, de nouveaux défis à relever. Et alors, je pense qu'entre le premier et le deuxième, il y avait le défi de faire une histoire qui soit plus resserrée, plus tenue. Et puis, en adoptant les codes de la comédie romantique dont je vous ai parlé, d'une certaine manière, me parler un petit peu plus de moi. Et dans ce troisième, il y a vraiment un enjeu esthétique fort, beaucoup plus que dans ces deux premiers-là. C'est ce qui rend ce roman très difficile à écrire pour moi. Mais du coup, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il a plus de valeur, parce que comme il est plus difficile à accoucher, et ben, j'ai l'impression que chaque phrase a une densité plus importante. Et on verra au résultat.
Alors moi, j'ai déjà lu quelques pages, je peux vous dire que c'est merveilleux. Et voilà. Et que
tu n'es pas objectif, David.
Un roman exceptionnel. si, parce que moi, je suis pas l'auteur, donc en fait, si c'est mauvais, je le dirai. non, c'est vraiment un très très beau texte pour l'instant. Il n'y a que quelques pages pour l'instant, mais je pense que ça fera un très grand roman. Donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le troisième roman de Franck Thomas. Voilà.
Comment est-ce que vous trouvez vos idées de scénario, de roman?
Ah.
Elles sont juste comme ça, sans que vous sachiez d'où ça vient, ou c'est lié à votre vécu ou...
C'est une bonne question. En fait, les idées, elles viennent un peu tout le temps. La difficulté, c'est d'arriver à juste garder celles qui valent le coup. Et c'est comme un tamis. Vous voyez, on passe un tamis, et puis, hop, et puis on secoue, et puis... la vie avance, on fait la vaisselle, on va voir des amis, puis les idées elles restent en tête comme ça, puis petit à petit, il y en a qui disparaissent, et il y en a qui restent, puis on dit « Ah, mais c'est vrai, c'était quand même pas mal ça !» Et puis du coup, à partir de ces idées qui restent,
on commence à élaborer. Enfin, je dis on, mais c'est en tout cas comme ça que je fonctionne. Je commence à élaborer. Je me dis, ah, bien, ça pourrait aller dans cette direction-là. Ah. Et puis, souvent, ça va rencontrer, dans ces moments-là, toute lecture ou toute rencontre ou toute idée qui va pouvoir être associée avec cette idée-là qu'on va me proposer. Je me dis, ah oui, tiens. Et voilà, c'est quelque chose qui se construit comme ça. D'abord, les idées qui viennent en permanence. Aussi bête soit-elle, hein, c'est parfois une image. Ah tiens, je sais pas, et si un tel faisait ça, par exemple, ou tiens, cet objet-là n'existe pas. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un objet qui aurait cette fonction-là alors que ça n'existe pas? Par exemple, je sais pas, je cherche à faire quelque chose et puis je me rends compte que j'ai pas l'outil ou que c'est compliqué parce qu'il faut utiliser trop d'outils en même temps. Je me dis, ah bah tiens, est-ce qu'il pourrait. Voilà, c'est un peu ce système-là. Ces idées-là, elles surgissent comme ça au gré du quotidien, en fonction des manques ou des rencontres ou des. Et puis ce travail de tamisage qui se fait naturellement et à partir de ces idées qui s'entêtent un peu. Et eh ben essayer de voir si on peut construire quelque chose à partir de là et parfois pas hein. Donc parfois on se dit ah non, bah non. Ou alors c'est trop compliqué ou ça m'intéresse pas suffisamment parce que c'est aussi ça écrire un roman ça prend du temps c'est beaucoup de plaisir mais c'est beaucoup de difficultés aussi c'est en tout cas pour moi c'est difficile et donc il faut avoir que ça vaille suffisamment la peine pour qu'on y consacre toute cette énergie, ce temps, voilà, qu'on ne consacre pas à sa famille, à d'autres choses. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe, on va dire. Et puis à un moment donné, bah, y a cette idée-là qui reste, et puis on se dit, ah mais oui, vraiment, ça n'existe pas, et ah, il faut que j'y aille. Et voilà. Et alors, parfois, j'en parle à mon éditeur, ou j'en parle à ma compagne, généralement. Me dit, ah bah oui, pourquoi pas. On me dit, ah bah non, non, ça, je crois pas du tout. Alors parfois, elle a tort. Hein. Et donc, je dis, ah bon, mais si, je crois vraiment que c'est bien. Attends, je vais te convaincre. Et puis voilà. Et puis du coup, cet échange aussi permet de nourrir l'idée, quitte à l'abandonner un peu plus tard. Mais Et ce troisième roman-là que je suis en train d'écrire, je sais plus si je t'en avais parlé ou pas, très vaguement. Mais au départ, je voulais pas du tout le faire lire à David avant qu'il soit terminé au moins un premier jet pour qu'il puisse saisir l'ampleur. Et en fait, c'était trop difficile. Je me sentais trop seul, j'avais besoin de soutien, d'un compagnon de route. Et donc voilà, j'ai cédé, je t'ai fait lire quelques pages.
Et parce que tu m'avais dit un jour j'arriverai et tu auras besoin de me promettre de travailler une journée entière sur mon texte. Tu m'avais dit que j'aurais ton roman en entier sur une journée.
Oui, et qu'il faudra faire que ça,
Voilà, c'est
oui.
ça. Ce qui est un peu compliqué parce que c'est assez rare que sur une journée je puisse faire qu'une seule chose. Mais finalement, je suis bien content d'avoir eu le début du texte. Mais c'est ça que je trouve, c'est assez agréable dans mon métier, c'est que il y a une vingtaine de romanciers avec lesquels je travaille régulièrement et il n'y a pas vraiment de méthode en fait. C'est-à-dire qu'il faut plutôt les écouter, ils ont chacun leur méthode. Il faut plutôt s'adapter à. Il y a ceux qui, comme toi, font un traitement et après écrivent. Il y a ceux qui, chaque jour, vont écrire une page, ils n'ont pas de plan. Et donc à la fin, ça donne un énorme bloc de texte qu'il va falloir reconstruire. Il y a ceux qui font des plans. Il y a ceux qui vont écrire de manière très intense pendant 3 semaines de vacances et vont passer tout le reste de l'année à réécrire. C'est très très variable. Il y a ceux qui on ne peut lire leur texte que s'il est complètement fignolé. Il y a ceux qui donnent 15 versions de leur texte et en fait c'est retouché, il y en a plein, il y en a avec lesquels il y a des échanges en permanence, il y en a avec lesquels les échanges n'entraîneront aucun changement du texte, c'est juste qu'il faut qu'ils soient convaincus de leur propre texte et qu'ils le présentent à quelqu'un d'autre. Là en fait à chaque fois il y a des... Tu es en train de te demander quels sont les auteurs auxquels je pense.
Non, j'ai fait mon petit puzzle là, à
Voilà,
chaque
c'est
page.
ça.
Alors, ça, c'est
C'est
Thomas.
ce jeu, tu sais, où il y a deux listes, il faut faire des
Oui.
traits de l'une à l'autre. Donc voilà. Mais c'est très, très agréable. Après, c'est vrai que je pense que tu es celui qui a l'écriture peut-être la plus professionnelle, peut-être par habitude. Voilà, mais finalement, toutes les méthodes se valent parce qu'à la fin, il ne reste rien de la méthode, il reste juste le texte. Donc, c'est intéressant pour l'auteur et pour son éditeur ou son éditrice, les conditions d'émergence du texte. Mais finalement, pour la réception de l'œuvre, ce n'est pas nécessairement très important, en fait. On a cette discussion ces jours-ci parce qu'il y a actuellement, on travaille sur un texte, pas ton texte, mais qui est écrit assez rapidement. Et en fait, j'ai fait la liste de tous les. Parce que souvent, on se dit qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire un bon roman. Là, c'est un texte qui est bien, mais qu'on fait assez vite. Et j'ai fait la liste de toutes les. Pour assurer l'autrice qui l'écrit, j'ai fait la liste de toutes les grandes œuvres qui ont été écrites en peu de temps. La Chartreuse de Parme a
Ouais.
été écrite en moins de 6 semaines.
J'avais 3 semaines, moi.
Pardon?
3 semaines, moi, j'avais.
T'avais lu 3 semaines,
Non,
toi?
ouais, j'avais la référence que c'était 3 semaines.
D'accord. En 3 semaines, c'est le scénario de. North by Northwest, c'est quoi le titre en français?
Ah,
Le
la
Hitchcock.
mort aux trousses, non?
La mort aux trousses. Et en fait, initialement, Hitchcock avait laissé 2 semaines au scénariste, et le scénariste a pleuré pour avoir une troisième semaine, en disant que c'était pas possible d'écrire dans ces conditions. Mais après, il y a beaucoup de grands scénarios américains des années 20-30 qui ont été écrits en peu de temps. Voilà. Mais c'est peut-être pas nécessairement un idéal à cultiver.
Et quand même, écrire un scénario, écrire un roman, c'est pas la même chose. Le scénario, c'est une étape vers la réalisation du film. C'est un outil. Le roman, c'est un produit fini. Donc, et la langue du scénario, enfin, il y a les dialogues, mais écrire que des dialogues et des situations, c'est pas que ça, un roman, en fait. Il y a beaucoup. Et même en termes de narration, il y a certains scénarios qui sont un peu plus alambiqués en termes de narration, mais globalement, non, je trouve que c'est vraiment très différent. Après, écrire, je ne savais pas que ça avait été écrit en 3 semaines, La mort aux trousses, mais chapeau au scénariste, ouais.
Mais là, alors la Chartreuse de Parme, j'ai appris comme ça que plusieurs des textes de Stendhal avaient été dictés et qu'il y a des débats sur le fait quels sont les apports linguistiques du secrétaire de Stendhal en fait. Hein.
Ça,
Et on ne saura jamais,
on ne saura
on ne
jamais.
saura peut-être jamais.
Je t'ai parlé de mon secrétaire?
Est-ce que j'allais te demander, est-ce que tu as un secrétaire?
Oui.
Non,
Tu
mais
sais,
après
quand
tout,
je t'ai
c'est un
demandé
sujet.
un autre billet de train pour
Oui,
pouvoir.
c'est ça. Non, mais c'est finalement aussi un sujet de l'amour à la page, c'est-à-dire les algorithmes.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est-à-dire l'écriture assistée par ordinateur,
Oui, et puis
ce
même
type de
le
choses. Hein.
ghostwriting pour l'illustratrice, le fait d'écrire pour quelqu'un d'autre.
Alors, est-ce que, bon, apparemment, les deux romans sont quand même assez différents. Est-ce que vous êtes en train de vous chercher un style de roman, ou est-ce que, comme il y en a qui font que des polars ou que des science-fiction, est-ce que vous tâtonnez pour chercher un style qui vous sera propre et dans lequel vous resterez, ou est-ce que vous aspirez à faire des romans très variés comme ça? Qu'est-ce que vous préférez a priori, quoi?
Eh ben, c'est une bonne question et je pense que, alors je sais pas si c'est mon héritage des Beaux-Arts ou si c'est que j'étais naturellement comme ça, ce qui m'a amené aux Beaux-Arts, c'est que j'ai envie de faire des romans très différents. Justement, ouais. Et d'une certaine manière, je trouve qu'ils sont déjà un petit peu trop similaires ces deux-là. Mais donc le troisième sera très différent dans une esthétique très différente, pas du tout ironique. J'ai très envie d'écrire du polar. Et l'idée est déjà là, donc pour l'instant elle est encore dans le tamis, elle se secoue gentiment. Oui, j'ai beaucoup d'envies variées. Peut-être une autobiographie, à la demande de mon
Non, mais
éditeur.
c'est un sujet parce
Plaisir
que.
pour
Oui, voilà, c'est pour ça.
Non, mais
Mais pour ça, il y a plein d'autres choses à écrire avant. Ouais.
c'est vraiment une très très bonne question parce que c'est vrai que je pense que la manière dont est organisée l'édition peut avoir tendance à encourager les auteurs à rester toujours dans le même genre. Et c'est pas une très très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est un peu une illusion parce que si on regarde l'histoire de la littérature, beaucoup de très grands écrivains ont une œuvre très diverse. Alors c'est pas toujours visible, mais des auteurs comme Kafka ou Dostoïevski ont des œuvres beaucoup plus vastes que ce qu'on croit. Par exemple, si vous regardez les traductions, l'avantage, c'est par exemple Dostoïevski, toute la fiction a été traduite chez Babel par André Markovitch, donc vous pouvez sur un rayon tout voir. Et il y a de la comédie, des grands romans réalistes, des romans politiques, des choses qu'on qualifierait presque de surréalistes, de magiques, et des récits de voyage, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, il faut trouver le moyen de recréer cette liberté d'écriture. Alors après, il y a des auteurs aussi qui ont envie de creuser un genre pour le maîtriser parce que ils le retrouvent chaque année. Mais c'est vrai que dans le catalogue des forges, je n'ai pas vraiment d'auteur comme ça parce que toi, tu vois, tu évolues. Des auteurs comme Guillaume Chamagnitian et Claire Duvivier, ils ont écrit du roman d'aventure fantastique, mais je sais déjà que les romans d'après n'ont pas de rapport avec ce genre littéraire. Gilberto Villarroel, qui est en. Ça, c'est les éditions de poche, mais c'est un auteur. Chilien qui a écrit de la littérature fantastique, mais qui écrit aussi de la littérature policière, enfin qui prépare des textes de littérature policière. Gilles Marchand a fait du réalisme magique, mais il va évoluer vers le roman historique. Ils ont tous des évolutions. Je peux pas dire qu'il y en ait un qui soit.
Jean-Luc, qui va continuer avec le tabac noir,
Il va
peut-être.
continuer. Alors Jean-Luc Dechaineux, il a fait un roman policier, il va refaire un roman policier, mais il a fait son premier grand roman qui était un roman plutôt voilà, qui est un roman somme très magique.
Une
Voilà.
merveille.
Souviens-toi des monstres. Très très grand roman par l'amplitude du sujet et de l'imaginaire qui s'y déploie.
Donc après le tabac
Et
noir.
Tama Noir, par contre. Deuxième roman, polar, plus resserré, début d'une série.
Oui, même auquel. Ah, puis celui-ci, c'est.
Un roman somme, c'est vraiment un roman où, en fait, on voit ça parfois chez les jeunes romanciers. C'est, même si c'est leur premier roman, souvent ils accumulent 20 ans, 30 ans de lecture, d'envie, et ça donne des romans extrêmement foisonnants, extrêmement. Volumineux, voilà. Le roman de Franck, le premier roman de Franck, c'est un gros roman, mais il n'est pas écrasant. Dachano, il est beaucoup plus long. Après, en termes éditoriaux, ce dont on se rend compte, c'est souvent difficile de commencer avec un roman somme. C'est pas toujours une très bonne idée parce que quand les gens connaissent pas un auteur, on a besoin de les apprivoiser. Et donc, si on leur dit d'emblée, c'est un roman qui fait 600 pages, qui couvre 100 ans d'histoire, avec une trentaine de personnages, ça peut faire peur aux gens. Tandis que si c'est un romancier ou une romancière aguerrie, c'est plus simple de dire que ça. Mais souvent, en fait, beaucoup de très grands romans somme ont été écrits par des gens relativement jeunes, parce que d'un côté, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir les écrire. Mais d'un autre côté, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir les écrire. Et on voit aussi chez beaucoup de grands romanciers le moment où, passé un certain âge, ils font des romans plus courts. Parce que c'est dur, en fait, d'écrire des romans longs si vraiment on les travaille littéralement. Mais roman somme, c'est une manière de dire c'est un roman long, mais pour des bonnes raisons. Voilà! Pas parce qu'il y a les ciseaux ont glissé sous le bureau et on sait plus les retrouver, on sait pas faire de coupe. Voilà. Toi, tu définirais comment un roman somme? Tu n'emploies pas cette expression.
Assez peu, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un roman où tout un monde est créé, où où le nombre de personnages est effectivement conséquent parce que ça s'étale sur beaucoup de temps, donc beaucoup de rencontres, ça, les péripéties se croisent, se mélangent. C'est ce que disait tout à l'heure Franck, c'est aussi peut-être le. Alors parce qu'ils ont l'énergie, mais aussi parce que ils ont envie de tout mettre. Dans le tamis, il reste plein d'idées, et au lieu de se dire, tiens, celui-là pourrait faire une bonne histoire, celle-ci pourrait faire une bonne histoire, c'est. Si je mêle les deux, ça fait deux super histoires dans un livre. Un roman somme, ça peut être ça aussi. Et comme tu dis, c'est pas, ça peut être un bon roman, Ça peut être un roman, des fois, un peu fourre-tout. Mmh. Alors, un roman somme, c'est un bon roman. Un gros roman peut être parfois un roman un peu fourre-tout. Ce qui n'est pas le cas ni de celui-ci, ni de celui-ci. Soyons clairs.
De toute façon, enfin, nous ne publions que des très très bons romans.
C'est vrai.
Non mais, je dis ça sans plaisanter, c'est que... c'est que le bénéfice d'être une maison indépendante qui fait de l'édition raisonnée, c'est-à-dire faire peu de titres chaque année, c'est que tous les titres ont vraiment été sous-pesés, accompagnés, j'espère. Enfin, je sais pas, oui, au moins les titres ont été lus par l'éditeur, voilà, ce qui est déjà...
on peut en parler juste. C'est vrai que pour le premier, on se rencontrait, le travail éditorial a été moins important que pour le second, où pour le coup, vraiment, d'échanger avec David a fait énormément évoluer le texte. En mieux, vraiment, il y a un personnage qui est apparu, il y a...
Le personnage de l'éditeur antipathique.
Voilà. Non, je suis déjà là.
D'accord, il était déjà là.
C'est celui qui m'a donné l'idée d'écrire le livre. Non, non, mais vraiment, il y a eu beaucoup d'allers-retours et qui, à chaque nouveau retour, le livre prenait en cohérence, en densité. Enfin, j'ai eu le sentiment, en tout cas. Mmh.
Oui, mais c'est aussi l'idée d'avoir une politique d'auteur, c'est qu'après, on peut, on se connaît mieux.
Oui.
Quand tu m'expliques quelque chose, je comprends généralement ce que tu veux dire. Et voilà, après, il faut garder à l'esprit que l'éditrice ou l'éditeur est censé être à disposition de l'auteur ou de l'autrice, mais on n'est pas des personnages créatifs, en fait. Donc c'est vraiment l'auteur ou l'autrice qui fait tout le roman. Par contre, ça l'aide parfois d'avoir quelqu'un qui écoute de temps en temps. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la littérature, on se rend compte que l'idée que les gens doivent écrire tout seuls dans leur coin, c'est une idée relativement moderne. Tout à l'heure, je citais Kafka, mais Kafka, il lisait des passages de ses textes à ses amis. Il raconte que le matin, il écrit avant d'aller au travail, il va au travail, puis il les retrouve au café en fin de journée, il monte sur une chaise, il lit des passages... Et il dit, si personne ne rit, je froisse et je jette dans un coin. Et ses amis ont aussi raconté les mêmes scènes, donc c'est des scènes qui ont vraiment existé. Et c'est une forme, ses amis n'étaient pas les co-auteurs de ces textes, mais ils ont bien contribué d'une certaine façon, mais parce que lui leur a ouvert en fait cet espace-là. Mais après, c'est vrai que l'écriture, je le vois chez tous les auteurs, ça reste quand même quelque chose de solitaire, avec ses grandes joies, et ses difficultés. Mmh. Voilà. Donc si on peut un tout petit peu alléger la peine, c'est bien, mais on l'allège simplement en disant qu'on est là et que si on peut aider, on aide, mais on sait que tout se passe quand même dans la tête de l'auteur.
Non, mais c'est là où l'éditeur est très important, c'est que, comme tu l'as dit, on se connaît de plus en plus, donc moi, je te fais confiance, et en même temps, tu me laisses entière liberté. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu vas me dire bah là c'est vraiment trop long, il faut couper. Tu vas me dire je trouve que c'est un peu long, peut-être que ce personnage-là, t'es sûr qu'il est vraiment nécessaire ou ça. Et du coup, ça ne veut pas dire que je vais remettre en question la pertinence de ce personnage, mais je vais me dire ah, mais alors en effet, peut-être que c'est long. Et moi aussi, d'une certaine manière, je ressens que c'est long. Est-ce que c'est vraiment le problème du personnage? Parfois, ce n'est pas du tout ce problème-là. Mais du coup, sa remarque va me faire réfléchir, va me permettre de trouver souvent une solution que ni lui ni moi n'aurions imaginé au
départ. Oui, parce que moi, comme je ne suis pas créatif, je n'ai pas les solutions. Je peux peut-être dire, effectivement, c'est trop long, mais après, c'est l'auteur qui va dire, c'est trop long, peut-être parce qu'il y a un sentiment de longueur, parce que c'est mal amené, mais donc à la fin, il peut corriger. La solution, ça va peut-être d'allonger le texte pour que ça fonctionne mieux. Ça peut être de couper. Ça peut être de rajouter un personnage, ça peut être de retirer un personnage, ça peut être d'affiner la langue. Voilà, c'est lui qui trouvera la solution et elle peut être... Et souvent, elle est très, très surprenante. C'est-à-dire que je suis généralement incapable d'anticiper la solution que va trouver l'auteur ou que toi, tu as pu trouver quand tu m'exposais des difficultés sur un texte.
Et moi, je n'aurais jamais anticipé non plus la modification avant que tu me fasses cette remarque. Donc, c'est vraiment... c'est un échange très fertile. Et très satisfaisant aussi, parce que comme il y a une confiance réciproque, eh ben, je sais que je ne vais jamais mal prendre une remarque qu'il va faire.
parce que c'est pas quelque chose de gratuit ou et que en plus je suis totalement libre de trouver qu'elle est infondée donc et de lui dire.
Non, mais c'est ça vaut pour toi, mais ça vaut aussi pour les autres auteurs. J'ai pas en 13 ans de travail, j'ai jamais eu de situation de vrai blocage en fait. De situation où il y aurait quelque chose que je voudrais absolument faire corriger. Et voilà, par contre, c'est vrai que parfois, les solutions, on ne les trouve pas tout de suite. C'est-à-dire, ça demande de la rumination, ça peut être des semaines de discussion, on se dit, ah, faudrait changer peut-être ça, et puis on ne trouve pas, quoi. Voilà, après, tu restes quand même au sein des auteurs-autrices avec lesquels je travaille, un de ceux qui a la plus forte autonomie. Et ça, je pense que c'est aussi l'habitude de l'écriture, en fait, qui fait que tu as une très très forte autonomie, alors que je pense que d'autres ont besoin de parler beaucoup plus régulièrement, en fait. Dachano, il est très très autonome, mais Dachano, il a plus de 30 ans d'écriture derrière lui. Donc, sur Souviens-toi des monstres, c'est un roman qui est arrivé très très ficelé. C'était très difficile de retoucher quoi que ce soit. Donc, il a quasiment pas bougé. Tamanoir a pas mal bougé, par contre. Enfin, plus bougé.
Et donc, mon idée pour le Tamanoir, de faire écrire chaque aventure par un auteur différent, vu le. Parce que,
Ah
je,
ben
si vous
non.
connaissiez ou pas,
Ah ben
c'est un
oui.
hommage très, très bien fait et très appuyé au Poulpe, le personnage qui avait été créé par Jean-Bernard Puy aux éditions Baleine, il y a longtemps. Et chaque aventure était écrite par un auteur différent. Donc voilà,
Alors
je m'étais
c'est
posé
une
cette
bonne
question.
idée. En fait, pour l'instant, il était prévu que ce soit Dachano qui écrive tous les épisodes, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Si toi qui veux écrire du polar, ça t'intéresserait de faire un volume du
Ah, j'aime bien
Tabanoir.
l'idée, ouais.
C'est pas mal comme idée. Faut que j'en parle à Jean-Luc, je pense que ça pourrait l'amuser. Parce que aussi l'idée de Jean-Luc Dachano, c'est que initialement, c'était censé être un poulpe, son texte. Parce que c'est une sorte de pari avec une des éditrices qui travaillait sur le poulpe.
D'accord.
Et puis finalement, le poulpe a été complètement arrêté.
Ah oui.
Et donc, il avait commencé à faire ce texte, mais son idée, c'était de. Il trouvait que le poulpe est un peu marqué par l'époque où ça a été créé. Et il voulait créer quelque chose d'un peu moins sexiste, d'un peu. Voilà. Alors, moi, j'ai pas lu beaucoup de poulpe. J'en ai lu, mais notamment en préparant Tamanoir. Donc, Tamanoir, on sent que Tamanoir est l'enfant de notre époque, alors que le poulpe, c'est quoi? C'est les années début des années 90?
Ouais, 90, oui, c'est ça.
Mais alors David, moi j'accepte si c'est les mêmes règles que le poulpe, c'est-à-dire qu'on publie dans l'ordre d'arrivée, sans retoucher le texte et sans.
Ah bon, je connaissais pas cette règle,
Et
par
bah, il y a un
contre.
cahier des charges assez rapide sur le personnage, mais d'un poulpe à l'autre, il y en avait un où il pouvait être absolument contre les armes à feu, et puis l'autre où il tire à la Kalachnikov sur tout ce qui bougeait.
D'accord.
Il
Ah
fallait qu'il
oui, il
soit,
boive
il
une
fallait qu'il lise
bière.
un livre.
Oui.
Ça, c'était
Ah, mais c'est presque
obligatoire.
une contrainte à
Oui,
l'oulipo, quoi. C'est
exactement.
voilà.
Fallait qu'il lise un livre, ça fallait que ça touche une question sociale.
Oui.
Mais en dehors
Alors
de
ça, c'est
ça.
aussi la série
Il
Tamanoir, à
fallait qu'il
chaque
boive une
fois, c'est une
bière, il
question
semble,
sociale.
à chaque fois.
Oui, bah, le premier, en tout cas, est clairement.
Ah.
Comment?
Il fallait qu'il écrive une bière, non? Aussi. Non,
Je me
parce
demande s'il n'y
que.
avait pas une bière différente à chaque
Oui,
fois,
c'est
oui,
ça.
aussi.
Bon, bah, on va voir. Le projet vient de prendre une dimension insoupçonnée. Cette
On
soirée
l'appelle tout
nous
de
emmène
suite.
vraiment très très loin là. Non, on ne peut pas appeler l'auteur. L'auteur, maintenant, il habite à l'étranger, il
Ah oui,
habite en
ça... ah,
Suisse.
il habite en
Donc,
Suisse, on peut pas
voilà.
l'appeler. Non,
Ça va coûter trop
c'est
cher
ouais.
pour nous là. On n'a pas le budget pour appeler
Ouais.
en Suisse. Voilà.
Bien. Est-ce que vous voulez qu'on boive un verre et puis
Eh ben, on peut considérer que c'était une
Ouais.
superbe soirée.
Ouais.
Grâce à toi,
Ah
Antoine.
oui.
Mais
Ouais.
moi, je veux bien
Merci en tout cas
acheter un
d'avoir
livre
pris.
si c'est
Oui.
possible.
Ah c'est possible, oui.
Ah.
J'ai envie d'acheter le premier pour voir si ça me plaît. Et puis, si ça me plaît, j'achèterai le deuxième.
Eh ben merci, merci beaucoup, avec plaisir.